Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Pascal Prache.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Votre parole est rare. Vous êtes le procureur du parquet national financier. De très nombreuses questions à vous poser. Je voudrais simplement remonter le fil de ces quelques derniers jours et des prochains. Mardi dernier, 19 mai, on apprenait qu'un juge d'instruction allait enquêter sur Édouard Philippe pour des retournements de fonds publics. Mercredi, le 20 mai, ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de Dominique de Villepin, là encore, pour détournement de fonds publics. Jeudi, le 21, le palais de l'Élysée était perquisitionné dans le cadre d'une enquête pour favoritisme. Parallèlement, il y a Nicolas Sarkozy qui est en ce moment même jugé en appel de sa condamnation sur les soupçons de financement libyen. Marine Le Pen qui sera le 7 juillet si elle peut se présenter à l'élection présidentielle. Tout ça, d'une manière ou d'une autre, c'est le parquet national financier. Au fond, c'est vous qui faites ou qui défaites la politique ?
Surtout pas, Madame de Malherbe, surtout pas. Parce qu'en fait, le rôle du parquet national financier, d'abord, c'est avant tout de faire respecter la loi, d'appliquer la loi. Vous savez, le parquet national financier est composé de magistrats du parquet, donc notamment pas de juges d'instruction. Les juges d'instruction n'appartiennent pas au parquet national financier. Et ces magistrats du parquet sont là pour appliquer la loi qui est votée par les députés et les sénateurs et qui représente la souveraineté nationale. Et le parquet national financier, dans cette dimension-là, se borne à exécuter la loi. D'ailleurs, nous avons prêté serment, nous magistrats, d'appliquer la loi, et c'est ce que nous faisons.
Vous comprenez évidemment, ma question est provocante, mais au fond, on se dit qu'il n'y a quasiment pas un candidat à l'élection présidentielle qui vous échappe, enfin, dans les principaux, et cette fois-ci comme les précédentes. Qu'est-ce que ça invite chez vous comme réflexion ?
Je crois que
nos politiques sont tous pourris, ou alors au contraire que, précisément, on est dans une démocratie où on peut tous juger, et évidemment avec la question du calendrier électoral.
Alors surtout pas, on peut absolument pas dire effectivement qu'il y a un positionnement des hommes politiques ou des femmes politiques qui nous conduira à considérer qu'ils sont ainsi tous susceptibles d'être inquiétés, ça n'est pas vrai. Et je crois au contraire que le rôle du parquet national financier, précisément en faisant respecter la loi, est de s'assurer de procéder à un certain nombre de vérifications qui nous permettent, dans un certain nombre de cas, d'identifier que telle ou telle procédure ne tient pas, ou que telle ou telle procédure est susceptible de donner lieu à des poursuites. Et d'ailleurs, je voudrais aussi préciser un point, parce que vous l'évoquiez en préambule, le parquet national financier ne traite pas de toutes les affaires que l'on appelle affaires politico-financières. Par exemple, quelques-unes des affaires que vous avez citées ne relèvent pas du parquet national financier, mais du parquet de Paris. Et par ailleurs, nous savons aussi que nous sommes confrontés en période préélectorale, et nous l'avons en tête, de même que vous, sans doute, je pense, dans la sphère médiatique, nous sommes aussi confrontés en période préélectorale, potentiellement, à des tentatives d'instrumentalisation de l'autorité judiciaire. Et il est impératif que nous soyons, nous, très attentifs lorsque des faits sont portés à notre connaissance par des plaintes, par des signalements ou par le travail journalistique que vous menez. Nous sommes amenés donc à faire un certain nombre de vérifications avant d'ouvrir des enquêtes. Et ça n'est pas parce que nous ouvrons une enquête que mécaniquement il y aura derrière une poursuite. L'objectif, c'est de procéder encore une fois à des vérifications. Et si à la sortie, nous considérons qu'il y a matière à classement sans suite, eh bien nous procéderons à classement sans suite. Ou alors à une poursuite si nous considérons...
Mais vous comprenez bien évidemment, et on va prendre le temps de regarder dans le détail un par un chacun des cas que je viens d'évoquer pour comprendre aussi ce qui peut être reproché et quelles sont les peines encourues. Mais évidemment, vous parlez du calendrier. Le calendrier, on est à un an de l'élection présidentielle. Quel est l'impact pour vous ? C'est-à-dire, au fond, soit vous ouvrez une enquête, et évidemment, même si, comme vous le dites, une enquête ne veut pas forcément dire qu'à la fin, il y aura condamnation, ça jette la suspicion dans un moment politique. Soit vous ne le faites pas en vous disant, bon, c'est pas le moment parce qu'il va y avoir les élections présidentielles. Et dans ce cas, vous pourriez ensuite vous voir reprocher de ne pas avoir enquêté sur ceux qui pourraient être élus.
Je crois que c'est exactement la problématique à laquelle nous sommes confrontés. En premier lieu, je ne pense pas que ce soit l'ouverture d'une enquête qui jette la suspicion. Parce qu'une enquête, elle est déclenchée sur la base d'une plainte, sur la base d'un signalement, ou encore une fois, sur la base d'investigations journalistiques. On l'a fait encore récemment, en début d'année, par exemple, sur l'Epstein Files. Donc, c'est un sujet sur lequel, évidemment, nous sommes amenés à nous positionner, mais dans une perspective, encore une fois, de vérification. Le deuxième point, c'est que, bien sûr, il faut que la loi avance, parce que, encore une fois, nous avons prêté serment, et nous sommes là pour appliquer la loi, mais nous sommes aussi dans un système où nous sommes particulièrement attentifs au débat électoral, parce que nous sommes des citoyens et nous ne pouvons pas l'ignorer. Et donc l'objectif, lorsque nous déclenchons des investigations, encore une fois aux fins de vérification notamment, eh bien c'est de pouvoir aller suffisamment vite pour que les décisions d'orientation soient prises le plus loin possible de l'échéance électorale.
ce parquet national financier que vous dirigez désormais, donc vous êtes le procureur, il a été très largement critiqué par un certain nombre de politiques. Nicolas Sarkozy avait parlé d'une justice politique rendue avec haine, ça c'était plus largement. Marine Le Pen avait dit du parquet national financier qu'il allait, je cite, à l'encontre de notre état de droit. À propos de l'élection de 2017, elle disait c'est un parquet politisé, dont les magistrats sont choisis, je le crois, en partie sur des critères politiques qui sont toujours les mêmes. Voilà ce qu'elle disait du parquet national financier. Et à propos de la campagne de 2017, elle disait pendant l'élection présidentielle, comme par hasard, ce sont précisément les deux candidats qui pouvaient accéder au second tour qui ont vu se déclencher contre eux les foudres du parquet national financier. Elle parlait de François Fillon et d'elle-même.
Je crois qu'il faut rappeler à nouveau, une fois de plus, que le parquet national financier travaille sur la base des éléments qui sont portés à sa connaissance, qu'il est composé de magistrats qui ont prêté serment, qui sont là pour appliquer la loi avec impartialité, parce que c'est un sujet absolument essentiel et consubstantiel à l'action des magistrats. C'est une règle déontologique majeure que nous portons quotidiennement. Et le deuxième point, et j'insiste encore là-dessus, c'est qu'il faut se souvenir dans quelles conditions le parquet national financier a été créé en 2013. Et c'était notamment à la suite de l'affaire Jérôme Cahuzac. Et je crois que nos concitoyens sont aussi très attentifs à ce que le principe d'égalité des citoyens devant la loi soit préservé et soit protégé. Et le parquet national financier est là également, toujours dans un principe de contradictoire, dans un principe de travail à charge et à décharge, pour mener les investigations qui permettent aussi de démontrer à nos concitoyens que précisément ce principe est préservé. Et je crois que plus généralement, le parquet national financier, en travaillant ainsi, de cette manière-là, encore une fois avec impartialité à charge et à décharge, concourt à la solidité du pacte républicain.
Pascal Prache, je le rappelle, vous êtes le procureur du parquet national financier. Les deux dernières affaires, ça remonte à la semaine dernière, Édouard Philippe ou Dominique de Villepin. Édouard Philippe va donc faire l'objet d'une enquête menée par un juge d'instruction pour harcèlement moral, favoritisme, détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt et concussion. C'est donc la conclusion que vous avez actée à l'issue de cette enquête qui a donc conduit à la nomination de ce juge d'instruction. De quoi s'agit-il ?
Je crois qu'il faut d'abord repréciser des choses concernant là, c'est de la situation notamment d'Édouard Philippe, puisqu'il n'est pas la seule personne visée par cette plainte qui était déposée fin 2023. Une enquête préliminaire a été diligentée par le parquet national financier et en 2025, alors que nous orientions vers la clôture de cette enquête préliminaire et vers une prise de décision, est-ce que nous allions poursuivre ou pas et qui est-ce que nous allions poursuivre, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par la victime et à partir de ce moment-là par le plaignant et à partir de ce moment-là, l'ouverture d'informations judiciaire est automatique. Et donc c'est dans ces conditions-là qu'un magistrat instructeur a été désigné dans ce dossier. C'est désormais lui qui va diriger l'enquête. Donc c'est un
point. Quand vous dites automatique, ça veut dire que, en quelque sorte, vous voulez prévenir toute critique qui pourrait être faite d'une forme d'acharnement. Acharnement, c'est un mot qui revient régulièrement, notamment dans la bouche des avocats de Nicolas Sarkozy à propos de la justice qui ferait preuve d'un acharnement. Là, vous dites c'est automatique, c'est la procédure.
C'est la procédure, c'est-à-dire que nous n'avons même pas eu le choix de savoir si nous allions ouvrir une information judiciaire ou pas, c'est la loi. Et donc la loi s'est appliquée en l'espèce, comme d'habitude.
Quel sera le calendrier de cette enquête-là ?
C'est une question qu'il faudrait poser aux magistrats instructeurs, aux juges d'instruction qui ont été saisis. Mais je crois en tout état de cause, nous serons, nous, très attentifs à notre niveau et en fonction des responsabilités que nous avons, à ce que les investigations aillent aussi vite que possible. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que sur un certain nombre de dossiers, et notamment les dossiers en matière économique et financière, ce sont des dossiers qui revêtent une certaine complexité et donc qui nécessitent du temps.
Quand vous dites le plus vite possible, j'imagine que vous avez évidemment en tête le fait que dans un an, c'est l'élection présidentielle, qu'Édouard Philippe est candidat à l'élection présidentielle, qu'il est en campagne, et que donc quand vous dites le plus vite possible, est-ce qu'il est envisageable qu'il soit jugé avant ?
Je crois que nous n'en sommes absolument pas là. D'ailleurs, peut-être d'ailleurs qu'il ne sera pas mis en examen. Nous n'avons aucun élément en le sens. C'est encore une fois le magistrat instructeur, le juge d'instruction, qui est en charge du dossier, qui décidera quelle orientation il souhaite donner à son enquête.
Et quel que soit le calendrier, c'est-à-dire que on peut se retrouver dans un mois, dans deux mois, dans six mois, voire même un mois avant l'élection présidentielle, avec un Édouard Philippe qui potentiellement, bam, tout d'un coup est mis en examen.
C'est au juge d'instruction de décider la manière, encore une fois, dont il souhaite diriger son enquête. J'insiste sur ce point. Ce n'est pas que je souhaite pas vous répondre. C'est parce que, mécaniquement et juridiquement, c'est le juge d'instruction qui dirige.
Alors, j'ai bien compris. Vous êtes en train de nous dire, en fait, juridiquement, il a son propre temps, qui est le temps de la justice, qui est temps de l'enquête. Mais est-ce qu'il va se dire, est-ce qu'une sorte de règle morale tacite existe ou non? Peut-être allez-vous me dire que c'est totalement inapproprié qu'il se dise, je sais pas moi, que 6 mois avant l'élection présidentielle, il y a une sorte de on gèle tout et on se dit qu'on met personne en examen qui soit candidat. Ou est-ce que ça, c'est totalement farfelu comme idée?
Non, je peux absolument pas vous en dire plus. Vraiment, j'insiste sur ce
point. Mais il n'y a pas, en tout cas, vous ne vous retiendrez pas, ni vous ni le magistrat instructeur, il n'y aura pas de retenue à l'idée de mettre en examen potentiellement un ou une candidat à l'élection présidentielle.
Je crois que le sujet, ça sera encore une fois celui de l'application de la loi, mais en essayant aussi, comme j'évoquais un instant, de faire en sorte que les investigations aillent suffisamment vite pour ne pas percuter directement le calendrier électoral autant que possible.
Est-ce que vous pouvez nous dire tout de même un mot de ces investigations? Quel est le chef possible d'inculpation?
Je peux absolument rien vous dire là-dessus parce que pour qu'il y ait une mise en examen, il faut que sur, vous avez listé d'ailleurs des infractions qui apparaissent dans ce dossier qui concernent encore une fois potentiellement plusieurs personnes. Il faut vérifier point par point.
Une ancienne adjointe, au moins, d'Edouard Philippe.
Absolument. Il faut vérifier au point par point si les infractions tiennent sur chacune d'entre elles. Et donc, il est beaucoup trop tôt pour déterminer si ce serait.
Une ancienne adjointe à qui on reproche précisément d'avoir eu en quelque sorte une double casquette. C'est à peu près ça l'idée, si j'essaye de résumer, je crois, pour ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire à la fois, effectivement, adjointe et en charge de la dépense du budget qui avait été alloué à une structure.
C'est essentiellement fondé sur l'attribution de subventions, effectivement, avec des possibilités de mise en cause au regard des règles de la commande publique. Mais encore une fois, c'est l'information judiciaire qui doit nous permettre d'y voir plus clair. Et j'insiste sur ce point. Je crois que le principe, d'une part, d'efficacité de l'action judiciaire et d'application de la loi doit s'appliquer. Et on sait par ailleurs quel principe de présomption d'innocence. Et c'est aussi au magistrat du parquet que je suis, qui est également garant des libertés individuelles, de le rappeler.
Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Voilà la réponse d'Edouard Philippe.
Mais très bien, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus et je pense que l'objectif en tout état de cause, quel que soit le positionnement des uns et des autres, c'est que la justice avance avec sérénité, encore une fois, dans la perspective de l'application de la loi.
Je précise qu'Edouard Philippe citait Jacques Chirac. Dominique de Villepin, lui aussi, est donc l'objet désormais d'une enquête du parquet national financier, notamment au vu de 2 statues de Napoléon qu'il aurait reçues alors qu'il était ministre des Affaires étrangères, l'une d'une valeur de 50 000 euros, l'autre de 75 000 euros et qu'il n'a fini par rendre que récemment alors que ces statuts ont été décriés par la presse.
Nous sommes dans un cas de figure qui est différent procéduralement du cas de figure que nous évoquions à l'instant, puisque là c'est à la suite notamment d'articles de presse, d'investigations journalistiques, que nous avons choisi d'ouvrir une enquête cette fois-ci qui est une enquête préliminaire, donc qui est bien dirigée par le parquet national financier, qui n'est pas confié à un juge d'instruction. Et cette enquête préliminaire a vocation, comme je l'évoquais tout à l'heure, à procéder à un certain nombre de vérifications. Les faits sont-ils constitués? Représentent-ils une infraction? Sont-ils prescrits? Et donc, c'est à l'issue de ces investigations que nous choisirons quels sont les éléments qui peuvent être retenus ou pas. Et je crois encore une fois que l'objectif de ces vérifications, et vous l'évoquiez d'ailleurs tout à l'heure, c'est aussi de pouvoir renseigner nos concitoyens et peut-être lever le poison du doute. C'est une formule qui a pu être utilisée parfois. Ou au contraire, considérer qu'il y a matière à poursuite, mais en tout état de cause, ne pas laisser en suspens une interrogation sur la probité.
Sur quelle infraction est-ce que vous enquêtez là? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait être reproché?
Nous serions potentiellement sur des faits de détournement de fonds publics ou de recel de détournement de fonds publics. Donc, encore une fois, nous en sommes à ce stade, sachant que ce sont des qualifications qui peuvent évoluer au cours de l'enquête.
Est-ce que aujourd'hui, un ministre en exercice peut recevoir des cadeaux d'une telle valeur?
Mais c'est un vrai sujet, évidemment, qui se pose. Et d'ailleurs, il me semble que désormais, des règles déontologiques assez strictes existent au sein notamment des cabinets ministériels ou au sein des ministères. Je crois que nous sommes là aussi pour vérifier dans quelles conditions des cadeaux sont susceptibles d'être faits ou pas. Parce que derrière, nous avons quand même un sujet majeur qui est celui de la confiance de nos concitoyens dans la classe politique notamment, et en tout cas dans les élus et celles et ceux qui dirigent le pays.
Quand on offre des statuts d'une telle valeur à un ministre, on les offre au ministre ou on les offre à l'homme?
Eh bien, nous verrons bien ce que diront les investigations en l'espèce.
Et elles seront quand, les investigations? Là encore, je pose la même question que pour Edouard Philippe. Dominique de Villepin n'est pas officiellement candidat, mais il l'est de plus en plus. Même calendrier, dans un an, c'est les élections. À quelle vitesse allez-vous avancer dans les enquêtes?
L'objectif, vous l'avez compris, je l'évoquais tout à l'heure, c'est d'aller suffisamment vite pour que, encore une fois, notre calendrier judiciaire, sur lequel nous n'avons pas toujours une totale maîtrise, parce qu'il y a les services d'enquête, il y a le positionnement des différents acteurs qui font que ce calendrier peut évoluer en permanence. L'objectif est de faire en sorte que nous puissions avancer. avancer dans des délais les plus raisonnables. Mais je serais sans doute assez déplacé aujourd'hui de donner des dates précises. Ça correspond pas à la réalité. L'objectif, encore une fois, c'est d'être réactif, dynamique sur la conduite de l'enquête, de façon à pouvoir éclaircir les choses.
Lorsque Marine Le Pen dit c'est un parquet politisé, lorsqu'elle dit qu'en 2017 l'élection a été largement chamboulée au minimum par les enquêtes du parquet national financier. Là, il y a la date du 7 juillet. Alors, ce n'est plus vous aux manettes, mais la date du 7 juillet pour savoir si oui ou non Marine Le Pen pourra se présenter. Est-ce que la manière dont le calendrier électoral et le calendrier judiciaire sont à ce point imbriqués, quand même à un moment ou à un autre, pèse sur vos décisions de magistrat?
D'abord, je voudrais rappeler tout de suite que, notamment sur le dossier auquel vous faites référence, notamment le dossier concernant Marine Le Pen, ce n'est pas un dossier du parquet national financier, c'est un dossier du parquet de Paris. Le deuxième point, c'est ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire que nous sommes sur une ligne de crête qu'il faut trouver en permanence. D'une part, si le parquet national financier ne se mobilise pas pour traiter telle ou telle procédure, eh bien, une partie sans doute de nos concitoyens considéreront que le PNF ne joue pas son rôle, et alors que c'est encore une fois l'objectif qui lui a été assigné lorsqu'il a été créé, c'est-à-dire de faire respecter la loi et de veiller au respect de l'égalité des citoyens devant la loi. Et si par contre le parquet national financier, et c'est typique des questions évidemment que vous évoquez aujourd'hui, le parquet national financier agit, on viendra dire qu'il vient percuter le calendrier électoral. Je crois qu'il faut redire que le PNF, comme les juges d'instruction qui ne sont pas au PNF, mais les juges d'instruction notamment du tribunal judiciaire de Paris, sont là tout simplement pour faire ce pourquoi ils ont été nommés, c'est-à-dire appliquer la loi, et bien évidemment essayer de le faire lorsque nous avons la possibilité de le faire, notamment en termes de maîtrise des délais d'enquête, pour que le calendrier judiciaire impacte le moins possible le calendrier électoral.
Y a-t-il d'autres dossiers sur lesquels vous travaillez en ce moment et dont on n'aurait pas connaissance et qui pourraient eux aussi, à un moment ou à un autre, avoir une conséquence politique?
Vous savez, je crois que c'est l'occasion aussi de rappeler que on entend souvent parler du parquet national financier en lien avec les affaires politico-financières. Le parquet national financier, c'est 750 procédures, c'est-à-dire 40 à 50 dossiers par magistrat, ce qui est énorme, ce qui est bien plus que ce qui était prévu initialement, qui est sans doute trop aujourd'hui, absolument. Et il faut savoir garder présent à l'esprit que la part que représentent les élus, quels qu'ils soient, les élus, notamment les élus, nous sommes confrontés à des situations qui concernent des maires assez bien régulièrement, sûr, est entre 5 et 10% des dossiers que connaît le PNF. C'est dire à quel point le parquet national financier travaille très largement sur des dossiers qui ne concernent pas des élus.
L'affaire Epstein, un mot pour dire que vous aviez été saisi, vous aviez ouvert une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée à propos d'une société offshore immatriculée aux îles Vierges, détenue en partie par Caroline Lang. Il y a eu des perquisitions en février. Est-ce que cette enquête avance?
Cette enquête avance, de même que d'autres d'ailleurs, qui sont en lien avec les Epstein Files, et d'ailleurs aussi avec de l'entraide pénale internationale, singulièrement avec, par exemple, sur un des dossiers avec les Norvégiens. Oui, ce sont bien sûr des procédures qui avancent, parce que ce sont des procédures dont nous nous sommes saisis sur la base des investigations journalistiques et qui font apparaître que des vérifications très significatives doivent être menées.
Solidarité internationale, dites-vous, ça c'est un des points aujourd'hui sur lesquels vous avancez. Avec tous les pays, on a parlé récemment de la question de l'Algérie, d'enquêtes qui devaient être menées ensemble, de retrouver une forme de confiance des deux côtés. Est-ce que c'est le cas?
Oui, aujourd'hui il faut savoir que quasiment un dossier sur trois du parquet national financier nécessite de l'entraide pénale internationale et que donc, notamment dans ce cadre-là, nous avons été amenés à échanger avec les autorités algériennes, les autorités judiciaires algériennes qui souhaitent pouvoir récupérer un certain nombre de biens qui considèrent avoir été financé par de la corruption en Algérie. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons échangé avec les autorités judiciaires algériennes lors d'un déplacement récent.
Vous étiez?
Absolument. Et c'est aussi l'occasion d'ailleurs de rappeler que nous sommes très attachés au parquet national financier, à la notion aussi d'efficacité de la réponse judiciaire. Il faut quand même savoir que depuis sa création, le parquet national financier a jugé plus de 700 personnes et a permis à l'État de récupérer plus de 12,5 milliards d'euros.
C'est dans les temps actuels, on peut dire que c'est toujours utile.
Mais je crois que dans les temps actuels, c'est toujours utile. Et quand on se souvient qu'un dossier sur deux du PNF concerne des affaires de fraude fiscale, eh bien, je crois que nous sommes au rendez-vous.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions ce matin. Pascal Prache, vous êtes procureur du parquet national financier. Vous êtes bien sur RMC BFM TV.